Bien, bonsoir à tous. Donc ce soir, Juliette n'est pas là. Donc Juliette est au sport d'hiver. J'espère qu'elle ne va pas faire de ski parce qu'on a besoin d'elle. Et comme elle est capable de faire beaucoup de choses, toujours à la recherche de sensations très fortes. Donc on a quand même une petite pensée pour elle parce que c'est vrai que elle nous manque hein, quand elle n'est pas là. Moi, je sais que je suis triste. Donc Juliette n'est pas là. Bon. Donc, ce qui fait qu'on va commencer tout de suite. Et un sujet assez particulier, qui est que faire en cas de crise. Que faire en cas de crise, en sachant que je vais essayer d'être assez bref, parce que peut-être des personnes dans la salle ont des expériences à rapporter, des témoignages à faire, mais c'est une situation qui n'est pas facile à vivre, la crise, parce qu'elle survient, on n'est pas préparé, et il est certain qu'on n'a pas beaucoup de moyens à notre disposition pour pouvoir gérer des crises, dans la mesure où c'est vrai que dans ce domaine, il y a beaucoup de manques. Il y a beaucoup de manques, parce qu'appeler un médecin en urgence, c'est pas évident, parce que très souvent, si vous appelez le SAMU, on va refuser parce que c'est un problème psychiatrique. Donc, malheureusement, il nous reste uniquement le recours à la police, et qui peut être quand même une situation de traumatisme pour le sujet. Donc des situations qui ne sont pas faciles. Alors, pour essayer d'être assez schématique, je vais essayer d'évoquer avec vous différentes situations de crise, et d'abord parler bien sûr de la crise suicidaire, parler des crises dépressives, et puis aussi parler des crises d'excitation maniaque. Bon. On peut évoquer aussi le problème des états délirants, mais je dirais que le problème est identique à celui des états maniaques. En sachant qu'il est certain que lorsqu'on est dans des situations de crise, s'il existe une très bonne alliance avec son médecin, ça se passe en règle générale très bien. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je m'adresse surtout aux conjoints, à l'entourage. Vous êtes démunis, vous ne savez pas quoi faire. Et ça peut être la première situation de crise. Bon. Alors, en ce qui concerne le suicide, on en parle beaucoup. On insiste beaucoup sur des chiffres qui peuvent vous paraître très importants, puisqu'on dit que 15% des patients bipolaires se suicident, ce qui est un chiffre quand même qui est très élevé. 15% des bipolaires qui ne sont pas traités. Et c'est sûr que si on apportait une information de ce type comme ça, à froid, sans qu'il n'y ait de perspective, je dirais, rose ou positive, eh bien ça serait assez pervers de notre part, dans la mesure où on rapporterait comme ça des faits alarmants sans pouvoir contrôler ces faits. Or, ce comportement suicidaire du bipolaire, il est contrôlable par des thérapeutiques, et le taux de mortalité des bipolaires qui est très élevé, puisqu'il est trois fois plus important que celui de la population générale, eh bien ce taux de mortalité, il se réduit sous médication, et il devient identique, voire inférieur à celui de la population générale. Ça, c'est un point important. Alors, lorsque on est conjoint, ou lorsqu'on est médecin aussi, et lorsqu'on est confronté à une crise suicidaire, eh bien, très souvent, on ne sait pas quoi faire et on ne sait pas comment évaluer le risque suicidaire. Parce qu'il faut bien distinguer la crise suicidaire qui concerne à peu près 800 000 à 900 000 personnes par an. C'est-à-dire que 900 000 personnes, chaque année, vont être confrontées à des idées suicidaires. Pas obligatoirement dans un contexte de dépression, ça peut être dans un contexte de grande crise d'angoisse, ça peut être dans un contexte de séparation, de difficultés matérielles, d'annonce d'une maladie physique gravissime. Donc je dirais que les causes de ces crises suicidaires sont multiples. Donc 900 000 personnes sont confrontées à ces crises suicidaires, et lorsque vous êtes le conjoint ou le médecin, comment vous allez évaluer le risque de passage à l'acte? Comment vous allez évaluer le risque de passage à l'acte? Et qu'est-ce que vous pouvez proposer de faire? En sachant qu'on ne va pas hospitaliser systématiquement ces personnes. Déjà, on a énormément de difficultés à hospitaliser des personnes qui présentent des états aigus et on ne peut pas hospitaliser tous les déprimés. De toute façon, aujourd'hui, il n'y a plus de lits d'hospitalisation, c'est une réalité. Et hospitaliser quelqu'un en urgence devient un exercice très difficile. Donc, on va essayer d'évaluer qu'est-ce qui va nous faire dire qu'il y a une dangerosité. Alors, c'est pas... Il y a plein d'idées fausses qui tournent autour du suicide. Hein. Quand on dit, il le dit, il ne le fera pas, ça c'est archi-faux. C'est archi-faux, on ne peut pas partir avec l'idée que s'il le dit, s'il l'exprime, c'est pour attirer l'attention sur lui. Non, ça c'est une idée vraiment fausse, a priori, et il faut lutter contre et prendre en considération, la manière dont il exprime cette idée. Et puis, bon, c'est vrai que le conjoint... L'entourage n'est pas spécialiste, ne peut pas évaluer quels sont les symptômes qui vont être alarmants et qui vont être associés à cette crise suicidaire. Mais lorsque cette idéation suicidaire s'accompagne d'autres manifestations, on est en droit de s'inquiéter. L'une, je dirais, qui est l'une des plus fréquentes et qui est un facteur de gravité, c'est l'alcool. Parce que très souvent, cette crise suicidaire pourra... survenir dans un contexte d'ivresse parfois pathologique, quelqu'un qui n'avait pas ses idées avant de boire, tout d'un coup se retrouve dans un état de désinhibition, avec l'expression d'une agressivité importante, agressivité qu'il va retourner contre lui, et c'est vrai qu'un alcoolique est très souvent imprévisible. Il est imprévisible, quand on se retrouve face à quelqu'un qui a bu, la relation, elle est quasiment impossible. On ne peut pas parler, on ne peut pas discuter avec quelqu'un qui a bu. Et là, il ne faut pas hésiter à intervenir, tout du moins à faire intervenir la force publique ou éventuellement un médecin d'urgence qui évaluera la situation. Mais lorsqu'on est dans une situation de crise aiguë, on ne peut pas y arriver. Il faut le dire, hein, on ne peut pas y arriver et c'est impossible de discuter avec quelqu'un qui a picolé. On le voit dans les contextes d'urgence et qu'est-ce qu'on fait ? On traite, on enferme ou éventuellement on utilise des ceintures de contention et on attend qu'il dégrise parce que y a aucun autre moyen, hein, et on ne peut pas faire quelqu'un. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui a absorbé de l'alcool. Bon. Je dirais que c'est à peu près la même chose pour l'utilisation de drogue. Donc là, on est dans un contexte particulier, et je dirais que l'alcool, à mon avis, hein, est un facteur à prendre en considération et qui va nous amener obligatoirement à prendre des décisions parfois radicales. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les symptômes qui accompagnent. Les symptômes qui accompagnent cette crise. Et c'est sûr que si cette crise suicidaire survient dans un contexte, par exemple, de dépression, où le sujet, par exemple, a perdu le sommeil depuis une semaine, 15 jours, qu'il ressent un état de fatigue, qu'il ressent un état de lassitude, de désintérêt, avec des sentiments de culpabilité, de dévalorisation, d'inutilité, de remise en cause de lui-même, avec un pessimisme, le risque, il est majeur. Le risque, il est majeur. Et là, je dirais que ça dépend un peu de la symptomatologie, d'autres symptômes. Mais quand on est face à ce type de pathologie, à ce type de trouble, on est amené, dans la majorité des cas, à poser une indication d'hospitalisation, en sachant qu'il faut trouver le lit, ça c'est sûr. Mais ça, c'est pas votre problème. Mais c'est vrai qu'on doit s'inquiéter devant quelqu'un qui est déprimé et qui présente de telles idées. Le risque, il est majeur dans certaines formes de dépression quand il peut y avoir une symptomatologie délirante qui est associée et où les idées de culpabilité deviennent extrêmes, les idées de ruine apparaissent, des idées donc d'incurabilité, il se croit possédé par le démon, il est devenu immortel parce qu'il y a une négation d'organes. Ça, c'est un syndrome qui est très particulier, qui s'appelle le syndrome de Cotard, et vous vous retrouvez face à quelqu'un qui est profondément mélancolique, c'est la vraie mélancolie, la mélancolie au sens classique du terme, avec des symptômes particulièrement inquiétants, donc des idées de damnation, je suis damné, je suis possédé par le démon, et de toute façon je n'ai plus d'organes, je n'ai plus rien dans mon corps, et je vais devoir supporter toute ma vie cet enfer, parce que je suis mortel. Et c'est sûr que ces personnes, eh bien, ces personnes sont dangereuses pour elles-mêmes. Il y a un risque de dangerosité qui est extrême. Des personnes qui peuvent passer à l'acte et qui justifient une hospitalisation. Et là, je dis d'urgence, avec un traitement qui est d'urgence. Et dans la majorité des cas, on utilise les sismothérapies pour traiter cette forme de pathologie qui sont extrêmes. Et là, on est vraiment dans de la réanimation de l'âme, je dirais. Hein. Donc il y a vraiment nécessité d'intervenir d'urgence. Autre point important, c'est à côté de cette symptomatologie, il y a ce qu'est la personne, comment cette personne fonctionne. Alors on avait parlé lors des fois précédentes de personnalités qu'on appelle les personnalités borderline. Alors je vais redécrire pour les personnes qui n'étaient pas là ce qu'on entend par personnalité borderline. Ce sont des personnes qui probablement présentent le trouble le plus grave de la personnalité, qui ont été confrontées très souvent, et ça on retrouve ça dans leur histoire, durant leur enfance, à des événements des événements très négatifs, des événements donc de type séparation précoce, deuil, carence affective, sévices, des personnes qui ont pu être victimes d'agressions, agressions sexuelles, de coups, de violences, et surtout avec un manque affectif très important, qui peuvent présenter un trouble d'identité, c'est-à-dire qui ont des difficultés à avoir qui n'ont pas eu d'image d'identification par une absence de père et de mère, qui ont un état d'angoisse qui est permanent, qui ont un état de tristesse qui est quasiment permanent et qu'on appelle la dysphorie, c'est-à-dire qu'il y a cette fluctuation d'humeur et avec une composante dépressive importante, et puis aussi avec un sentiment donc de perte d'estime de soi, de dévalorisation, et avec très souvent des comportements impulsifs, violents, avec notion de comportement auto-agressif, avec des automutilations, avec une alcoolisation, avec une dépendance à des toxiques, et des personnes qui souffrent en permanence, et donc là il y a un risque de passage à l'acte. Alors c'est sûr que lorsque ces personnalités borderline se retrouvent au fond du trou et présentent un trouble dépressif, il y a véritablement un risque qui est majeur, et là faut faire attention à ce qu'on donne, parce qu'il y a certains médicaments qui peuvent faciliter les passages à l'acte suicidaire. On a beaucoup parlé des benzodiazépines, donc les benzodiazépines font partie de la classe des médicaments tranquillisants. Ce sont des médicaments, je dirais, qui traitent en surface certaines manifestations, qui sont avant tout des anxiolytiques, qui peuvent être utilisés pour corriger les troubles du sommeil. Mais ces médicaments, en particulier chez de telles personnalités, où il y a une réactivité anormale, où il y a cet état de souffrance, où il y a une impulsivité, où il y a une certaine instabilité, où il y a un besoin permanent d'amour, mais en sachant que l'amour ne comblera jamais leurs demandes, parce que il n'y a pas de fond. C'est-à-dire qu'elles sont dans une telle situation de carence affective qu'elles demandent en permanence et qu'on ne peut jamais, jamais les satisfaire. Eh bien, ces personnes donc, qui fonctionnent sur un mode très impulsif, avec des réactions de violence extrême, lorsqu'on leur donne des tranquillisants, et en particulier si ces tranquillisants ont été associés à de l'alcool, peuvent véritablement exploser avec un risque réel de passage à l'acte et commettre des tentatives de suicide. Et malheureusement, c'est des situations qui arrivent. Et je dirais que le tranquillisant ne protège pas du tout contre un comportement suicidaire. Là aussi, c'est une idée fausse, c'est-à-dire que lorsque vous avez un patient qui est déprimé, le tranquillisant pourra l'aider à passer à l'acte, parce que ça va le désinhiber comme l'alcool peut le désinhiber. On peut avoir des effets à peu près comparables avec l'alcool et les benzodiazépines du fait de cet état de désinhibition. Hein, c'est-à-dire que vous retrouvez la même sensation d'ivresse. Et à ce moment-là, vous n'anticipez plus les conséquences de vos actes et vous êtes dans le passage à l'acte immédiat. Donc ça peut présenter un caractère de gravité. Mais là, attention, je dois pondérer mes propos. Il ne faut pas trop que je vous alarme. Ça ne concerne qu'une catégorie de patients, hein, qui sont ces personnalités borderline, et dans un contexte particulier de dépression. Hein. Ça, c'est un point important. Donc je dirais que là il y a un risque de passage à l'acte. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Nous, on essaye de donner des médicaments sédatifs, mais de type neuroleptique, comme le tertian, le nosinant, qui vont véritablement avoir un effet protecteur contre un passage à l'acte, parce qu'ils auront un vrai effet sédatif, sans risque de réaction paradoxale, sans risque de désinhibition. Donc là, on est dans des situations à risque en ce qui concerne les états dépressifs. Il y a un autre type de situation où on peut être aussi amené à être confronté au suicide. Et là, je ne parle uniquement de ce qui nous concerne, c'est-à-dire des troubles bipolaires, hein, parce que sans ça, je ne vais pas aborder tous les autres aspects, on n'en sortirait pas. Ce sont les états mixtes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un état mixte? C'est le fait de pouvoir vivre simultanément un état de tristesse et un état, je dirais, d'excitation. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont avoir des idées tristes, qui vont être mal intérieurement, qui vont avoir cet état aussi de dysphorie avec une fluctuation, et qui vont être plutôt agitées, énervées, tendues. Et ces personnes peuvent passer à l'acte. Pourquoi? Parce que il y a la volonté. La volonté a été conservée. Alors, quand on est complètement déprimé et dans un état d'inhibition totale, on ne peut pas agir. Donc même si on a des idées de suicide, on n'arrivera pas à passer l'acte. Or, ces personnes qui présentent des états mixtes présentent simultanément une tristesse, une dépression et un état d'excitation. Et là, il y a un risque de passage à l'acte. De même qu'il y a un risque de passage à l'acte en fin de manie. En fin de manie, je dirais que le sujet a vécu une expérience très très riche et il est en train d'amorcer une descente avec l'apparition de quelques symptômes dépressifs. Eh bien, là, le risque il est important aussi. Le risque de passage à l'acte est important. Donc, je dirais que ce qui nous concerne, nous, c'est dans ces situations de crise suicidaire, c'est l'état dépressif, le trouble qu'on appelle borderline, et puis ces états mixtes et ces manies en fin de parcours. Alors, qu'est-ce qui va nous orienter? Je vous parlais de la symptomatologie, mais il y a aussi les antécédents. Les antécédents, et on sait que le risque il est plus important lorsqu'on retrouve des antécédents familiaux de suicide, et bien sûr lorsqu'il y a des antécédents personnels de suicide. Et là, c'est aussi une donnée. C'est pas parce que quelqu'un a tenté plusieurs fois de se suicider qu'il n'y arrivera pas. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire c'est son côté théâtral, c'est de l'appel à l'aide. Non. Je crois que chaque tentative de suicide doit être prise en considération et on ne peut pas banaliser un comportement suicidaire. Et on le voit dans notre expérience, on voit que parfois au cinquième, sixième tentative de suicide, eh bien ça se termine de manière dramatique. Donc je dirais que quand on reprend un peu les antécédents, eh bien c'est aussi une orientation pour nous. Hein. Donc je dirais que les antécédents personnels de suicide, les antécédents familiaux de suicide vont nous orienter. Alors, qu'est-ce qui peut aussi nous orienter? Ben, pas grand-chose d'autre. Et c'est ça qui fait toute la gravité de cette situation, parce que par définition, le suicide est imprévisible. Et on le voit, c'est-à-dire que quand on est confronté à un suicide, eh bien, on se dit, mais tiens, j'avais pas vu cela, mais a posteriori, quand on reprend de manière rétrospective, on se dit, mais tiens, c'est vrai que j'aurais pu analyser ce symptôme, mais on ne l'a pas fait. Et je dirais, systématiquement, quand on reprend des histoires de suicidés, ben on s'aperçoit qu'on est passé à côté parce que elle présentait ou il présentait tel symptôme. Ce symptôme avait une certaine importance, mais il est passé inaperçu. il est passé inaperçu. Donc c'est toujours très facile de faire une analyse rétrospective. C'est très facile de critiquer en disant « mais on n'a pas pris en considération cet élément ». Mais le problème, c'est que dans l'immédiat, on n'a pas pu évaluer l'ensemble de la situation, on n'avait pas les informations qu'il fallait. Et par exemple, moi, je vais vous le dire de manière tout à fait ouverte, et, parce que c'est une chose qui m'est arrivée récemment, confrontée à un suicide, d'une jeune femme qui devait être hospitalisée, qui était déprimée. Jeune femme que j'avais prévu de faire hospitaliser, non pas parce que je pensais qu'il y avait un risque suicidaire, je n'avais pas du tout évalué ce risque suicidaire, elle n'avait pas d'antécédents familiaux, elle n'avait pas d'antécédents personnels, et elle s'est suicidée, je dirais, la veille de son hospitalisation. Alors on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'aurais dû l'hospitaliser avant. Bon. Et là, dans ce cas, j'avais même pas évalué le risque suicidaire alors qu'il était là. Alors c'est sûr que beaucoup de suicidés potentiels n'expriment pas le contenu de leurs idées. Et la seule chose, là, c'est que il y a une information qui m'a manqué, c'est que 15 jours avant, elle avait déjà tenté de se suicider par le gaz. Et c'est sûr que quand on a ces informations, eh bien, on peut agir en conséquence. Donc, tout ça pour dire qu'il est très, très difficile de pouvoir évaluer ce risque suicidaire. Je suppose que certaines personnes ici ont été confrontées à des suicides. Moi-même, j'ai été confronté à des suicides, à des collègues avec qui j'avais des relations très très proches, et je n'ai strictement rien vu venir. Donc tout ça pour dire qu'on est dans des situations qui sont très très difficiles à évaluer. Je vous dis ça parce que bien sûr, après, on culpabilise, c'est inévitable. C'est-à-dire que lorsqu'on a été confronté au suicide d'un proche ou d'un de ses patients, on est obligé de c'est dans la logique des choses, je ne vois pas comment. Et puis on se remet en cause, inévitablement. Mais se dire aussi que, par définition, c'est imprévisible. Et si on avait les moyens de prévenir les suicides, il n'y aurait plus de suicides. Ça, c'est une évidence. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le suicide est imprévisible, mais on a quelques indices qui nous permettent de dire, attention, il faut tirer sur le signal d'alarme, il y a des antécédents dans la famille, il y a déjà des antécédents personnels. Cette personne se retrouve, par exemple, dans une situation très difficile au plan matériel, familial, sans support, sans soutien, sans environnement, avec un état dépressif très très intense. Et avec là on est obligé quand même de faire très attention. Et malheureusement, dans la majorité des cas, ces suicides réussis, n'ont pu être prévenus. Donc, par rapport à ces 900 000 crises suicidaires, eh bien, vous avez 200 000, 300 000 peut-être tentatives de suicide, et vous avez 12 000 suicides réussis. Alors, il est certain que ce chiffre de 12 000 ne tient pas compte de conduite à risque, de conduite suicidaire. On pourrait très très bien dire que les personnes qui fument 2-3 paquets de cigarettes par jour, ceux qui s'alcoolisent de manière excessive, ceux qui prennent des risques en conduisant vite, ont aussi des comportements suicidaires. Ça aussi, c'est un élément à prendre en considération. Et quand on reprend un petit peu l'histoire de certaines personnes qui sont alcooliques et qui sont intoxiquées au tabac, on s'aperçoit qu'il y a des éléments dépressifs importants, avec une dévalorisation, avec le « à quoi bon, j'en ai rien à faire ». Et c'est sûr, et même certaines personnes qui ne font rien lorsqu'elles présentent un problème de santé physique et qui se laissent mourir et qui ne vont pas, je dirais, faire les démarches médicales pour pouvoir faire l'objet de soins. Donc il y a aussi tous ces comportements suicidaires qui ne sont pas retenus, je dirais, dans les statistiques, mais qui peuvent être assimilés à des suicides réussis, des suicides au long cours, mais des suicides réussis. Donc, situation très très difficile à évaluer, auquel on a tous été confrontés et on sera encore confrontés, de par la fréquence, de par le fait que le suicide est déterminé par un ensemble de facteurs. Ce sont aussi des situations donc de crise qui sont multidéterminées. Il y a un facteur qui est génétique, il y a un facteur qui est lié à la personnalité, il y a un facteur qui est lié aux événements de vie. Il y a des facteurs aussi qui sont liés à l'environnement. Et il est certain que lorsqu'on a un soutien au niveau familial, eh bien, ça diminue le risque. Cela dit, ça ne va pas empêcher le passage à l'acte, et on a comme ça des exemples de personnes qui ont remarquablement réussi, qui étaient entourées, qui avaient une vie familiale de rêve, des enfants, une vie de famille extraordinaire, et qui se sont suicidés. Et malheureusement, les exemples, on en a tous. Et ces personnes, eh bien, on ne peut pas anticiper. Donc ça, c'est la première situation. La deuxième situation de crise, c'est la crise dépressive. Alors la crise dépressive, je suis désolé, ce soir, ça va être un peu triste, hein, mais j'ai pas le moyen de vous raconter des histoires drôles sur ce thème. La deuxième situation, c'est la situation de dépression. Et là encore, quand on est déprimé, quand on est en pleine situation de crise dépressive, déjà, il faut savoir qu'on est déprimé, bon, ce qui n'est pas évident. Donc en général, c'est l'entourage, c'est le conjoint qui dira « Mais écoute, ça va pas du tout, il faudrait quand même que tu ailles voir un médecin, parce que là, tu te rends compte, tu es fatigué. » Et là, vous retrouvez confronté à l'inertie du sujet, parce qu'il ne veut rien faire, il ne veut pas aller consulter, il ne veut pas prendre de traitement, il y a un désintérêt pour tout, et indépendamment du risque suicidaire, vous inquiétez, parce que vous dites « Mais il ne peut pas rester, il souffre, et le sujet ne peut pas intervenir. » Donc là, Quoi faire? Et je dirais que le moyen d'accroche, c'est de passer par un médecin généraliste. Médecin généraliste qui va être... Parce que quand on parle de psychiatre, c'est toujours très très mal vécu. Et un sujet qui est déprimé, qui ne sait pas qu'il est déprimé, qui se croit atteint d'une maladie physique et qui est très fatigué, il n'a pas du tout envie de voir un psychiatre. Et puis de toute façon, il n'est pas fou. Donc il n'a pas besoin d'aller voir de psychiatre. Mais c'est pas évident. C'est pas évident à motiver. Donc, on va pas dire à un déprimé, écoute, tu devrais lire Je vais craquer, par exemple, c'est un livre d'Henri Cuche. Ça va pas marcher. Hein. Et de même que le dernier Labro, ça va pas marcher. Donc, c'est très difficile. Donc, et là, je pense que le médecin généraliste a un rôle très important à jouer parce que très souvent, c'est lui qui est en première ligne. Et c'est lui qui intervient, je dirais, dans 80% des cas de dépression. Le psychiatre ne prend pas beaucoup de dépression en charge. Hein. C'est surtout le médecin généraliste qui les prend en charge et qui pourra se déplacer, parce que c'est rare d'avoir des psychiatres qui se déplacent, hein. À moins que vous en ayez, vous me donnerez les adresses, mais le psychiatre ne se déplace pas, donc c'est le médecin généraliste. Vous avez un psychiatre qui se déplace? Bon, vous allez nous donner votre adresse et puis on va faire une publication après dehors. Bon. Et oui, les psychiatres d'urgence, oui. Quelquefois, il y a des visites à domicile de la part du CMP et tout ça. Bon, ça c'est sûr, mais c'est quand même assez rare. C'est exceptionnel. Et le médecin, je dirais, le médecin généraliste est là et se retrouve un bon interlocuteur parce que il va pas dramatiser la situation. Il va pouvoir mettre en place un traitement, instaurer un traitement, faire qu'il y ait une relation de confiance qui se crée entre lui et le patient. Sans cette notion de dramatisation, et ça, c'est un point important. Après, éventuellement, qu'il y ait une passe au psychiatre, mais en sachant que la passe au psychiatre, elle n'est pas indispensable. Je crois que la passe au psychiatre, elle se justifie dans des situations aiguës, et quand je parle de situations aiguës, dans les cas de problèmes de résistance, d'épisodes dépressifs très intenses, mélancoliques. Donc, je dirais que l'une des seules solutions lorsqu'on a un conjoint qui est déprimé, ou un enfant, ou un parent, c'est déjà de passer par le médecin généraliste. La deuxième chose qui est bien, et là je suis assez content des propos de Marie-Christine Hardy, cet après-midi il y avait un petit symposium consacré aux troubles bipolaires, et participait à ce symposium Marie-Christine Hardy, qui est professeure de psychiatrie, qui est professeure à Versailles, et qui a mis sur pied un réseau avec les médecins généralistes. Eh bien, elle fait un excellent boulot et ça permet, et elle se rend compte d'ailleurs que c'est toujours les médecins généralistes qui sont en première ligne et qui font une énorme part du boulot. Et ça c'est le point le plus important. Le deuxième point, c'est qu'elle insistait beaucoup sur le fait qu'il y avait un travail à faire en collaboration avec la famille, avec le conjoint, avec les parents, avec les enfants. Et là encore, vous pouvez très bien dire à votre conjoint, bah, écoute, on va y aller ensemble, et puis je vais rester à côté de toi, allons voir un psychiatre, dans le cadre d'on va voir un psychiatre, et puis je reste avec toi. Bon. Là, il faut trouver un psychiatre qui accepte de recevoir les deux. Mais ça, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, ça se fait couramment aux États-Unis, ça se fait de plus en plus en France, et on ne peut pas mettre de côté le conjoint. Je crois que le conjoint, il a le droit d'être informé, il a besoin d'avoir toutes les informations, ça c'est une évidence. Il ne faut pas attribuer au conjoint une fonction d'infirmier, hein, de partenaire de santé, on ne va pas le responsabiliser, mais... Je dirais que la prise en charge, elle est globale et on doit lui expliquer un certain nombre de symptômes et le conjoint va très souvent rester quand même à demeure avec la personne. Donc là, je crois qu'il y a certains psychiatres qui refusent de manière systématique de recevoir les conjoints. Alors moi, je ne vais pas le dire aujourd'hui, mais je le pense, mais Marie-Christine Hardy, lors d'une réunion précédente organisée par France Dépression, l'avait dit, c'est que dans ces cas-là, il faut changer de psychiatre. Alors c'est vrai que c'est une position un petit peu radicale. Il y a certaines personnes dans la salle qui avaient réagi par rapport à cela en disant qu'il y a des psychiatres qui veulent privilégier l'alliance thérapeutique et la relation. Ça, tout à fait. C'est vrai que c'est justifié dans certains cas, et en particulier quand on prend en charge les adolescents, c'est important de faire que la relation thérapeutique, elle soit bonne. Mais quand on est dans un contexte particulier de troubles maniaco-dépressifs, de troubles dépressifs, c'est important que le conjoint soit pris en considération, c'est important de donner les informations, c'est important de les voir ensemble, parce qu'en plus, le conjoint va nous donner des informations, je dirais, essentielles, que le patient ne pourra pas nous donner. Il ne pourra pas nous les donner parce que d'abord, il ne sera pas en état de nous les donner, premièrement, parce que quand on est déprimé, eh bien, on n'a pas envie de parler de soi, vraiment pas. Et puis, on est dans la capacité de pouvoir revenir un peu sur son histoire antérieure. Eh bien, c'est le conjoint qui pourra nous dire. Et puis, le conjoint pourra aussi donner des informations sur des moments qui lui sont parus quand même un petit peu particuliers. Et puis, le conjoint, sans être un mouchard, pourra aussi nous apporter des informations ultérieurement en nous disant, attention, là, je sens qu'il est en train de repartir parce qu'il est revenu, avec une Ferrari. Et bon, aujourd'hui... Non, mais... C'est des situations catastrophiques. Aujourd'hui, j'ai reçu un coup de téléphone d'une jeune femme qui était éplorée du fait de la situation de son mari, qui a été hospitalisé, qui est traité, et qui s'est endetté horriblement et qui en plus a perdu son travail. Il s'est acheté une Formule 1, il s'est acheté une Ferrari. Il s'est acheté, qu'est-ce qu'elle m'a dit, il a fait des voyages somptueux, et puis autre chose qui coûtait une fortune. Bon. Et c'est vrai que ces informations, on les a rarement en direct, et lorsque vous allez voir un psychiatre tout seul, que vous avez des périodes d'excitation maniaque dans vos antécédents, vous n'allez pas raconter toutes vos frasques, et c'est le conjoint qui va nous apporter ces informations, de même que le conjoint pourra aussi prendre des décisions qu'il faudra. Donc là, tout ça pour dire que c'est quelque chose qui est fondamental et qui permet de mieux évaluer la situation. Et ça, je crois que cette relation-là, tripartie, enfin le conjoint, le patient et le médecin, elle est indispensable dans ce type de prise en charge et on ne peut pas s'en passer. Hein. On ne peut pas s'en passer. Et puis aussi quelque chose qui est purement, je dirais, humain, c'est-à-dire que on ne peut pas aussi on ne peut pas laisser les gens dans l'ignorance, c'est pas possible. Il n'y a rien de pire que de ne pas savoir. Et lorsque vous voyez votre conjoint rentrer, alors qu'est-ce qu'il t'a dit? Ça t'occupe pas, c'est pas tes affaires. Mais vous aimeriez le savoir. Donc, mais il t'a donné un traitement. C'est pas tes affaires. Donc là, vous restez, vous ne savez pas ce qui s'est passé, vous ne savez pas vers quoi ça évolue, donc vous allez appeler le médecin, et le médecin va vous dire « Non, c'est le secret médical, je suis désolé madame, et puis laissez-moi tranquille, j'ai pas le temps. » Donc on se retrouve dans une situation extrême d'angoisse, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on insiste beaucoup sur cette prise en charge globale, qu'on propose aussi des thérapies familiales, et que dans les mesures psychoéducatives qui sont mises en place, eh bien, on propose aussi aux parents, à l'entourage proche, de participer à ces réunions pour donner des informations qui sont essentielles. Qui sont essentielles à différents niveaux, parce que quand on est le conjoint d'un déprimé, ou quand on est le père ou la mère d'un déprimé, eh bien, on se remet toujours en cause. Et puis vous avez toujours quelqu'un qui va vous dire « mais s'il est comme ça, c'est de ta faute ». Donc ça, c'est des données classiques. Hein. Or, vous avez besoin d'entendre que ce type de troubles, eh bien, ce sont des troubles qui sont multidéterminés, qui ne sont pas liés à vous, qui sont liés à un ensemble de facteurs, et de vous déculpabiliser aussi par rapport à cela. Donc tout ça pour dire que ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple de se retrouver face à un psychiatre lors de sa première crise dépressive. Et là, donc, il faut biaiser. Et je pense que le médecin généraliste est une bonne alternative, si je peux me permettre. Voilà, donc ça, c'est les deux situations. Troisième situation, qui est la plus difficile, c'est l'état d'excitation maniaque. Et très souvent, quand je parle des maniaques, je dis que traiter un maniaque, ça ne pose strictement aucun problème. On a tout ce qu'il faut pour les traiter, et autant pour un trouble dépressif. Traiter une dépression, c'est difficile, c'est très difficile, parce que les médicaments antidépresseurs mettent un certain temps avant d'agir, parce que très souvent, il y a des facteurs d'entretien de la dépression. Mais traiter un maniaque, ça ne pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème. On a des médicaments efficaces, qui sont rapidement efficaces, qui sont bien tolérés maintenant, donc ça ne pose pas de problème. Le problème, c'est de l'attraper. Et c'est ce que je répète à chaque fois, c'est que la difficulté, c'est d'attraper un maniaque. Et il est évident que, et vous le savez, je m'adresse aux conjoints ou aux parents, ou éventuellement aux enfants de maniaco-dépressifs qui ont fait des épisodes maniaques, quand on est en phase, quand on est en crise de manie, eh bien, c'est très, très difficile. Et Jean-Alain Génermont, qui connaît parfaitement bien sa maladie, qui est parfaitement, je dirais, informé sur tous les symptômes qui peuvent annoncer un trouble maniaque, et se fait piéger, et en général, quand il est maniaque, ben, il refuse de manière catégorique d'aller voir le psychiatre, et en règle générale, c'est la gendarmerie qui remplace le psychiatre. Donc, attendez, on va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Ça, c'est dans les questions après. Donc, c'est des situations qui sont très difficiles. Et je dirais que le problème, il est majeur lors de la première crise maniaque, parce que vous ne savez pas ce qui se passe. Vous vous retrouvez face à quelqu'un qui... J'ai un de mes amis qui est musicien et qui est marié à une femme qui est charmante, adorable... Vraiment la perle. Et bien, au cours d'une phase d'excitation maniaque, elle a fait toutes les bêtises de la terre, y compris de partir avec un homme, d'avoir une vie, une relation amoureuse extrême. Et donc là, dans ces moments-là, on ne comprend pas, on est complètement désespéré, et on ne comprend pas. C'est vraiment Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc la première crise, là. Ici, je m'adresse à un public qui est averti, qui a été sensibilisé, qui veut avoir des informations et qui a déjà un certain nombre d'informations. Donc, vous savez ce qu'est la manie. Vous savez ce qu'est un état d'excitation maniaque. Or, ce qui est dramatique, c'est la toute première crise. La toute première crise maniaque, on ne sait pas ce qui se passe. On ne comprend pas, et à tel point qu'il y en a certains qui disent « mais il a dû prendre des drogues pour être comme ça, c'est pas possible ». Ou « il a dû prendre des drogues », parce que je vous rappelle quand même que le ratio... Le sexe ratio est de 1, c'est-à-dire qu'il y a autant d'hommes que de femmes maniaco-dépressives. Donc là, on est dans une situation très difficile et malheureusement, le seul moyen d'intervenir, c'est de passer par la force publique. C'est le seul moyen d'intervenir et je le dis ouvertement, ça m'est arrivé aussi de me retrouver face à quelqu'un qui était maniaque dans mon bureau. J'avais essayé toutes les solutions de faire intervenir des ambulances et tout ça. C'est impossible d'avoir une ambulance. Je suis psychiatre, donc je n'ai pas eu besoin d'appeler un psychiatre d'urgence. Et malgré le fait que j'étais psychiatre, je me retrouvais complètement coincé sans avoir la solution de régler le problème. Donc j'étais coincé. Donc c'est le psychiatre qui était complètement coincé. Et la seule solution, ça a été d'appeler police secours. Donc pour ça, j'ai utilisé une ruse, j'ai demandé au monsieur de s'allonger, que j'allais lui prendre sa tension. Je dirais, acte qui est quand même très particulier de la part des psychiatres, parce que c'est rare que des psychiatres qui prennent la tension. Bon, je vous rassure, c'est le seul acte médical que je fais, je n'en fais pas d'autres. Hein. Donc je lui dis, attendez-vous, reposez-vous, et puis moi j'étais donc en train de téléphoner au commissariat, et puis donc j'étais tombé sur un disque, vous avez fait le 17, je ne sais plus, donc votre numéro va être enregistré. Bon. Et en fin de compte, j'arrive à voir Police Secours, et je vous l'ai déjà raconté, mais je raconte pour ceux qui n'étaient pas là. Et donc, on arrive. Et à ce moment-là, j'ai mon patient maniaque qui sort du bureau et qui me voit en train de téléphoner. Et donc, il a tout de suite pigé ce qui se passait. Et il s'est rué sur la porte. Donc, qu'est-ce que je pouvais faire? J'appelle Police Secours. Bon, je le maîtrise. Je le maîtrise. Et un maniaque est agité, il a des forces qui sont décuplées. Et en plus, quand on maîtrise quelqu'un qui est agité, très souvent, on accentue encore plus son agitation. Hein, ça, vous le savez. Donc, j'étais là, je le maîtrise. Et ce maniaque, il crie, au secours, on m'assassine. Et quand vous avez un maniaque dans une salle d'attente, quand vous avez un maniaque dans votre bureau, eh bien, ça prend du temps. Ça prend du temps de le rassurer. Et il a tellement de choses à dire qu'on a déjà pris trois quarts d'heure, une heure et demie de retard. Et là, j'avais pris une heure et demie de retard et j'avais trois patients qui attendaient dans la salle d'attente et qui me disaient, est-ce que vous voulez qu'on vous aide? Et moi, j'étais blanc comme un linge. J'étais là toujours en train de maîtriser mon maniaque. Et à ce moment-là, Police Secours arrive alors que j'étais déjà dans le couloir de l'immeuble. Parce qu'il m'avait quand même embarqué jusqu'au couloir. Et moi, j'essayais toujours de le maîtriser. Et à ce moment-là, Police Secours, donc ils étaient quatre là. Et puis se calme immédiatement. Et ce qui est fabuleux, c'est que le maniaque piche très bien tout ce qui se passe. Et donc, il y a cet état d'hypersyntonie qui fait que... Il va pouvoir tout d'un coup être parfaitement syntone à l'ambiance, être hyper adapté, et à ce moment-là, écoutez, monsieur, je comprends pas parce que ce monsieur m'a agressé. Et c'est vrai que je faisais 10 fois plus malade que lui, parce que j'étais blanc, j'étais livide, je suais, et lui était un homme qui avait quand même, à l'époque, il avait 20 ans de plus que moi, j'étais pas en jean, mais j'étais plutôt une tenue décontractée. Et lui avait sa cravate, sa petite Légion d'honneur et tout. Et donc, à un moment, je me suis dit, ils vont m'embarquer. Bon. Et non, mais c'est la réalité. Et à ce moment-là, il a fallu que je les convaincre. J'ai pas eu besoin de faire venir les patients. Et ce patient était quand même hospitalisé dans le service. Et là, il a dit à tout le monde, le docteur Gay m'a traîné dans la charrette de la honte, du désespoir, je vais me battre en duel contre lui, je lui laisse le choix des armes. En 15 jours, ça s'est arrangé. Bon, tout ça pour dire que ce n'est pas simple, et toutes les expériences, on a comme ça quelques expériences très riches d'épisodes maniaques, où on est obligé véritablement de s'impliquer. Alors ça se passe relativement bien, je dis relativement bien, quand il y a véritablement une bonne alliance avec le patient. Ça se passe relativement bien. Parce que lorsque on connaît très bien le patient, lorsqu'on a des relations affectives avec lui, je vous l'ai dit, je vous le répète, et je vous le répéterai jusqu'à la fin de ces réunions, en 2045, eh bien, c'est vrai que les relations qu'on peut établir avec un médico-dépressif sont des relations qui sont très riches, qui sont très fortes. Et c'est vrai qu'on établit des liens qui sont forts. Pourquoi? Parce que le maniaco-dépressif est quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'affect, et il a besoin de ça, et qu'en règle générale, ça se passe bien à la condition d'être un petit peu comme lui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être maniaco-dépressif, mais de répondre et d'avoir un certain sens d'humour et de ne pas être trop psychorigide, parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de maniaco-dépressifs dans la salle, qui ont des médecins psychorigides, je ne sais pas comment ça se passe dans la relation, mais c'est vrai qu'il y a certaines, je dirais que ce ne sont pas des qualités, mais il y a certains critères que le médecin, enfin le malade, je veux dire, le patient, pourra rechercher, en particulier au niveau de la disponibilité, au niveau d'une certaine facilité de contact. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Donc, Souvent, avec un petit peu d'humour, on arrive à dédramatiser des situations. Mais le seul problème, c'est que ça ne dure pas. C'est-à-dire qu'on va arriver à calmer le jeu pendant 10 minutes, un quart d'heure, et puis au bout d'un quart d'heure, ça repart de plus belle, et là, on se retrouve un petit peu à la case départ. Alors, prendre en charge quelqu'un qui fait un état de subexcitation, un état d'hypomanie, je dirais que ça ne pose pas de problème. On va un petit peu dans son sens, et on est dans la séduction, un peu d'humour, et lui faire admettre quand même qu'il va un petit peu trop vite et qu'il est en train de rentrer dans le mur à toute vitesse. Lorsqu'on est en phase maniaque, et lorsqu'on se prend pour Jésus-Christ, lorsqu'on a un patient en face de toi, en face de vous, qui vous dit « Mais tu sais, je suis là pour t'aider, hein, je suis là pour t'aider, et là, regarde ta vie, regarde ce qu'elle est, c'est pas sans raison, tu sais, qu'on m'a mis en face de toi aujourd'hui, parce que je vois bien que tu n'es pas... » Bon, là, c'est difficile, là, c'est très difficile, mais il faut y aller à petits pas, et puis faire beaucoup dans la séduction. Je me souviens, et c'est là où la seule contradiction que j'avais avec mon maître Pierre de Nicaire, c'était quelqu'un qui disait « Un maniaque, ça se calme, vous lui dites qu'il est stupide, et il se calme immédiatement. » Or, quand on dit à un maniaque qu'il est stupide, ça ne va pas le calmer. C'est quelque chose qu'on peut faire dans un contexte hospitalier. Calmez-vous, vous n'êtes pas drôle. Mais dans une relation, je dirais, dans un cabinet, si on dit à quelqu'un qui est maniaque...